Comme un Happy Whiz, émission de Radio Zinzine de décembre 2018. Nous vous proposons une rencontre avec des membres et musiciens du groupe bordelais Happy Whiz, Yann Saboya, Enrique Vega, Armel Marcadet et Georges Vega. Ils nous partagent leur vie de groupe de 20 ans d'âge, leur relation à l'autogestion de la production et de la diffusion via leur label Les Potagers Nature, et autres influences et motivations passion musicale.
Bienvenue, donc on est à Radio Commune Oreille, on est à Fort-Calquier, mercredi 5 décembre, et nous avons aujourd'hui avec nous le groupe Happy Whiz qui a fait un concert hier soir. Alors, un concert.
Non, mais c'est toi qui.
Un concert comment?
De musique.
Ils présentent un groupe comme ça et ils font des superlatifs.
Le pince-oreille. Il y a un pince-oreille.
Merci Georges.
Alors Happy Whiz, l'histoire. L'histoire, la genèse. Quand est-ce que ça a commencé? On vous écoute.
C'est le métro là, le métro, non? Le micro.
C'est pas possible, ça déborde tout le temps.
Mais en même temps, c'est comme ça que je voulais commencer. T'as bien entamé. Alors, mercredi 5 décembre, comme le disait Armel, on est avec le groupe Happy Whiz qu'on vient de recevoir avec le collectif Commune Oreille au Cavalulu la veille, et donc on se permet un petit entretien avec vous le lendemain du concert. Donc on est avec Armel, Yann, Enrique et Georges, et Mehdi qui fait aussi partie du groupe. Donc pour les personnes qui vous auraient encore pas vu dans vos différentes tournées nationales et internationales, vous tournez depuis je crois 20 ans en trio et après en quintet. Je crois que vous avez sorti à peu près 6 disques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'historique du groupe depuis, l'historique ou la vie du groupe depuis 1995, je crois?
On va se passer le relais, mais en gros, on a commencé en 95 à 3 avec Enrique et Georges en basse, guitare, batterie, d'accord, en instrumental. Et on a commencé à faire des tournées à partir de 2000, voilà, 2000-2001. Voilà, et on jouait pas mal à Bordeaux entre 95 et 2000. Voilà. C'est deux frangins, le basse-batterie, donc c'était facile. On a grandi dans le même quartier, donc on a commencé assez tôt, parce qu'on se connaissait déjà depuis longtemps, et on était à la même école. Voilà. Tout simplement, en fait. Quoi. Quelque chose à rajouter, les gars?
Une tête de toréador.
Non, pas du tout. Non, ça dépend de degré de détail. Tu veux
peut-être expliquer un peu pour les gens qui connaisseraient pas Happy Whiz aussi quel genre de traversée vous avez fait, quel je sais pas si on peut définir un style, mais nous on l'avait défini comme rock brinque-ballant, je crois, et qu'en tout cas c'est vrai que moi c'est ce que je sentais un peu hier, que il y a une énergie rock'n'roll, mais que il y a un côté dansant, un côté aussi je trouve pas attendu et pas formaté dans le style et ce que vous proposez.
Quand on a commencé la musique, c'est parce qu'on écoutait beaucoup de musique, il y a beaucoup de groupes qui tournaient, et donc nous on a voulu faire pareil. Par rapport au style de musique, je pense que c'est par rapport à un tempérament qui va décliner en fait sur la composition. Et aussi c'est par rapport à des groupes, c'est pas tant brin que ballant que ça en fait, c'est assez carré, assez composé, même très composé. Et ça fait référence à des groupes qu'on a beaucoup aimés, qui étaient dans cette esthétique-là, en fait. Voilà. Après, avec le temps, en 20 ans, les morceaux, on a appris à mieux jouer d'une certaine manière, mais c'est pas vraiment le terme. Mais les compositions sont un peu ouvertes non, je sais pas comment le dire, mais bon, bref, voilà. Et donc, ça reste une musique composée instrumentale, je sais pas quoi te dire de plus.
Mais surtout qui est perpétuellement influencé par toute la musique qu'on a toujours écoutée et qu'on continue à écouter jusqu'à présent, et même par rapport à notamment Yann qui organise des concerts où il accueille des groupes qui tournent actuellement, où nous on continue à aller à des concerts, toute la musique qu'on écoute, et ça continue à influencer un peu ce qu'on joue quand même, et ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Mais c'est vrai que pour revenir à la genèse, c'est que on a commencé à écouter de la musique, je sais pas, on était au collège avec Yann. Tout de suite, on a eu envie d'en jouer et surtout, on avait un club. À chaque fois, c'est la même rengaine, mais on a eu un super club un peu interlope à côté de chez nous qui était un peu... assez improbable dans le genre de quartier que c'était, puisque c'était un quartier de classe moyenne où il ne se passait rien, il n'y avait pas de bar, il n'y avait rien du tout, mais il y avait un espèce de club avec un super programmateur qui passait des super groupes, et donc nous on a commencé à le fréquenter assidûment, et ça veut dire qu'on découvrait une certaine forme de musique, donc c'était à l'époque, Yann t'en parlera peut-être mieux que moi, mais c'était des groupes américains de labels qui étaient estampillés plutôt rock indé, indie rock, tout ça, et qu'on avait la chance de voir passer dans des conditions assez, pas vraiment confidentielles, mais en tout cas super intimistes. Et du coup, ça a influencé et notre style et aussi notre perception de la musique. Voilà, donc c'est aussi un lieu qui a joué un énorme rôle dans notre manière d'apprendre la musique et de commencer à en faire. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. Et ça a duré, jusque dans les années 2000. 99-2000. Voilà.
Après, nous, on a organisé des concerts. Donc il y a tout un réseau qui s'est mis en place au niveau un peu français, on va dire, qui se construit toujours actuellement et qui évolue aussi depuis 18 ans. Avec des gens qu'on a rencontrés, avec qui on est toujours en contact et qui font aussi de la musique de leur côté. Et on a créé le label aussi en 2000 qui permettait d'archiver, enfin de sortir nos propres groupes en fait, et aussi de proposer à des groupes de gens plus proches d'éditer leurs disques. Donc on faisait des compilations comme ça, il y avait plein de groupes bordelais. Et voilà, on a fait un petit label et ça nous permettait d'avoir des disques pendant les concerts. On a commencé à tourner bien en 2001. Et voilà, on vendait les disques et l'argent des disques revenait aller directement dans le label pour ressortir encore d'autres disques. Et voilà. Et après, on a été assez nombreux à faire ça et ça donne ce que ça donne maintenant, c'est-à-dire beaucoup de labels, beaucoup de groupes, beaucoup de concerts, de bonne qualité, de très bons labels et de très bons groupes. Donc c'est. Voilà. On était plusieurs à faire ça. Hein. Nous, on était vachement influencés par l'organisation un peu punk. Américaine autour de groupes comme Fugazi, de label Discord et tout. Et en fait, à Bordeaux, il y avait une association qui organisait des concerts qui sortaient de punk, hardcore, et qui sortaient eux-mêmes leurs disques. Et nous, en fait, c'est juste, on a calqué en fait cette initiative, ce type d'organisation à notre style de musique, en fait. Voilà. Et c'était très bien.
Super, c'est là où je voulais glisser et en venir. Du coup, il y a vraiment, on sent, en plus de jouer avec le groupe, toute une vision de la production de disques, la diffusion, et puis de pouvoir aussi, comme vous le disiez, d'organiser et de faire venir aussi d'autres groupes, quoi, un échange. Et puis, juste le label, si vous pouvez un peu approfondir le nom du label, et puis c'est quoi, du coup, la dynamique de comment vous produisez vos disques, dans quel circuit, tu parlais de Rock Indé.
Le label, on l'a monté pour sortir un disque à Piwiz en 2000. C'était, ça a toujours été, ça s'appelle Les Potagers Nature, donc. Et on a sorti un vinyle qu'on avait à 100 exemplaires, et c'est con, qu'on a vendu après au concert, et cet argent-là, on l'a reversé dans le label pour faire un nouveau projet d'édition, qui a été une compilation avec des groupes de Bordeaux, où chaque groupe participait, et donc après, on filait les disques un système d'autogestion, en fait, qui assez simple et qui fonctionnait très bien. Et en fait, c'est pas vraiment un réseau. Enfin, comment dire, c'est un réseau, mais plus de l'ordre. C'est pas du tout indé ou rock. Enfin, déjà, dès le départ aussi au sein du label, donc Les Potagers Nature. Et après, c'est un avis qui était partagé par pas mal de gens dans notre entourage. On n'a pas du tout fixé sur un style de musique. On pouvait très bien avoir un morceau de musique traditionnelle, qu'un morceau de musique reggae, ou alors qu'un truc de folk, ou un truc de punk, ou de grind, de metal, quoi. On n'était pas du tout parti sur une esthétique, en fait, bien marquée au niveau, en tout cas, sonore. Et donc, en fait, le mot rock, déjà, ça n'a pas, comment dire, n'a pas... enfin, moi, c'est un mot que j'apprécie pas du tout, et qui me parle pas du tout. Je n'ai pas du tout l'impression de faire du rock. Une musique électrique, encore, c'est peut-être au mieux par rapport à Piwiz, c'est ce qui définit le mieux. Mais le label n'est pas vraiment rock. Indé, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est un peu branché à ambiance inoccupable. Mais surtout, c'est un label qui... Et c'est des groupes qui traînent dans un réseau, on va dire, un peu informel, enfin, extrêmement informel. Avec beaucoup d'associations ou des particuliers qui organisent chez eux ou alors dans des locaux divers. Et voilà, c'est surtout c'est un réseau qui tient par l'engagement de plein de gens depuis des années et des années à côté de leur vie plus professionnelle. Voilà, c'est Je sais pas comment je pourrais définir plus.
Ouais, sachant qu'on parle de label, mais c'est quelque chose que... C'est une appellation qu'on a de manière rétrospective, parce qu'en fait, sur le moment, en fait, Yann, ce qu'il faisait beaucoup à l'époque, c'est que je crois qu'il y avait plein de petits enregistrements à l'arrache que tu mettais sur CDR. Tu faisais quelques copies de CDR que tu distribuais pendant les concerts, c'est bien ça ?
Les potagers nature.
Les potagers nature, et notamment, c'est dur d'écrire sur un coquillage, des trucs comme ça.
Ouais, voilà, c'est voilà.
Et là, on n'enregistrait pas de manière, entre guillemets, sérieuse la musique qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de concerts, enfin beaucoup, c'est tout est relatif, mais on faisait pas mal de concerts. Des copains nous faisaient des concerts. On avait, je crois, même pas idée d'enregistrer des trucs pour les sortir sous format disque.
Pour le sortir, non, mais on a déjà enregistré.
Des enregistrements, mais pas pour sortir. Comme nous, on écoutait des groupes qui sortaient dans des vrais labels, tu vois, avec de la vraie distribution, de la diffusion, etc.
Tu dis vrai label, c'est des labels...
Je dis ça maintenant, ça veut rien dire, mais à l'époque, pour nous, un vrai label, ça voulait dire estampillé comme une maison d'édition, avec des réseaux de diffusion, de distribution, que tu pouvais trouver à la FNAC, par exemple, ou dans des gros lieux de distribution de consommation, où nous, on allait acheter des disques et des CD. C'est ça, Yann. À l'époque, c'était quand même comme ça, dans les années 90. Même s'il y avait l'exemple du rock alternatif, mais c'est avec notre... C'est des gros labels aussi. Mais à l'époque, on n'avait pas cette vision de petits labels, de ce qu'après ils ont décliné sous le nom DIY, etc. Fais-le toi-même, tu fais tes petites productions, tu fais de la sérigraphie, tu imprimes tes trucs, tu les distribues, tu fais presser. Je crois qu'on n'avait pas vraiment cette...
Après. On n'avait pas de notion parce qu'on ne connaissait pas et on a appris, mais ça existait déjà.
Non,
par contre.
Je ne dis pas que ça n'existait pas. C'est que nous n'avions pas cette notion-là. Si bien que quand on a décidé d'enregistrer, en quelque sorte, d'archiver notre musique, de dire au bout d'un moment, on fait des morceaux, et puis en fait, après, ils se détériorent un petit peu, puis on finit par les oublier, on les rejoue plus. C'est quand même con de ne pas les archiver. Et donc, on s'est dit, on va faire un disque. Bon, une fois qu'on a enregistré un disque, voilà. Et une fois qu'on s'est dit, comment on va faire il faut bien le distribuer, il faut un label. En fait, on ne savait pas trop. Et puis, comme on était un peu désarmé pour trouver, un vrai label, on s'est dit, mais pourquoi ? Et inspiré, comme dit Yann, de ce réseau punk, on s'est dit, mais en fait, on n'a qu'à se renseigner pour carrément faire presser dans une vraie usine, en faire plusieurs exemplaires, et puis on va dire que on va dire qu'il y a un simili label en fait, on va dire c'est les potagers nature, mais finalement c'est quoi autre chose qu'un nom? Pas vraiment.
Dès le début en fait, c'est pas genre, c'était une espèce de faux label en fait, genre il y a pas de démarche de marketing ou quoi que ce soit, parce qu'en fait on était incapable, mais en fait c'est une espèce de nom un peu symbolique, de label un peu symbolique qui légitimait en fait une espèce d'étendard sur lequel on allait sortir un vinyle, parce que nous on avait besoin de sortir un disque avec Happy Wiz. Ça faisait 5 ans qu'on le jouait, on n'avait aucun enregistrement. Et il fallait qu'on passe à autre chose, et donc ces morceaux qu'on se traînait depuis quelques années, il fallait absolument qu'on les fige un petit peu, quoi. Tant bien que mal, quoi. Et donc on a utilisé ce mot, les potagers nature, pour sortir ce premier numéro du catalogue. Je sais même pas s'il y avait une référence d'ailleurs au disque, le premier album, quoi.
Non, je crois pas.
Ouais, pour finir là-dessus, c'est que le premier disque, c'est donc un nom de groupe, un titre d'album, une indication de label, et voilà. Et donc à partir de là, on s'est aperçu que en fait, c'était possible d'envoyer une commande à République Tchèque à l'époque et de recevoir en échange quelques centaines de disques avec une chouette couverture et tout, et de après les vendre pendant les concerts. Et du coup, après, de fil en aiguille, tu as eu l'idée de répertorier tous les...
Oui, après, on a fait la même chose, on a proposé aux gens qu'on côtoyait à Bordeaux de faire des compilations avec... S'il y avait des très bons enregistrements, il y avait des bons groupes à Bordeaux, en fait. Et personne ne sortait vraiment de disques. Et nous, on a proposé de faire des espèces de compilations avec un morceau par groupe. C'est plutôt 5 minutes par groupe, d'ailleurs. Et on a fait 4 compilations comme ça. Et donc, c'est intéressant parce que la majorité de ces groupes, en plus, ont disparu. Et il y a des très, très bons morceaux. Et voilà, donc... Et en même temps, en parallèle, par rapport à Happy Wiz, on a sorti un deuxième disque. Après, on a commencé à monter Chocolabilly avec Armel, Mehdi et Jo. On a sorti le premier album de Chocolabilly, R.S. Martinique. Et après, il y a Radical Satan qui s'est greffé dessus. Et au fur et à mesure, on s'est retrouvé une espèce de collectif informel cette espèce de nom de label assez, où on organisait des concerts aussi en même temps, en parallèle. Donc, on rencontrait du monde. En plus, en organisant des concerts, on rencontrait du monde autant à Bordeaux que des musiciens qu'on faisait jouer, qui eux après nous renvoyaient des fois la balle en nous faisant jouer ailleurs. Il y a tout un truc qui s'est mis en place en fait à partir de ce moment-là, et surtout qu'on n'était pas les seuls à faire ça, il y avait d'autres personnes qui faisaient ça à droite à gauche. Donc tout ça en fait, cette énergie s'est un peu cristallisée, on va dire, et
toutes les collaborations après, oui, pour faire un disque, on a après c'était plus que les potagers avec le fric qui récupéraient des ventes qui fabriquaient des disques, mais aussi avec des associations, d'autres labels, pour se mettre à plusieurs, pour que ça soit moins cher, évidemment. Et des groupes qui étaient même plus à Bordeaux, en fait. mais avec lesquels il y avait des affinités et esthétiques et au niveau des idées et des manières de faire, quoi.
Yann, tu parlais avant de, que vous jouiez avec Happy Wheels ou Chocolat Billy ou les groupes et que vous aviez votre vie professionnelle à côté. J'aimerais savoir, ouais, du coup, qu'est-ce que vous retirez au niveau, vous êtes dans une vision indépendante, de comment vous arrivez à avoir assez d'argent avec le label, la production, ou c'est quoi votre rapport commercial. Nous, comme une oreille, on essaie de questionner ça sur ce qu'on appelle largement les licences libres ou le Creative Commons, mais du coup, comment vous trouvez l'équilibre de pouvoir jouer, des rentrées d'argent
Ça dépend des gens, mais...
L'acmé du trafic de cocaïne en Galice, avec le cartel de Medellín, d'où on vient.
C'est pour ça qu'on fait une tournée en Galice. Non, mais ça dépend, pour chaque personne, c'est différent. Donc on ne peut pas vraiment parler, c'est assez compliqué. Il y en a qui bossent, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui font plus de musique. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est un truc. Et en plus, ça évolue vachement avec le temps. Genre, les contraintes qu'on avait au début des années 2000 ne sont pas du tout les mêmes qu'en 2018. On a tous des gamins, des trucs comme ça et tout. Donc c'est complexe, c'est je peux pas te dire franchement là, c'est un sujet un peu flou et vaste et
on pourrait presque dire que c'est du cas par cas au fil de l'évolution de nos profils de vie, quoi. Parce qu'il y a 20 ans, on était plutôt lycéens, étudiants. Après, il y en a qui ont bossé un petit peu. Il y en a qui n'ont pas bossé. Après, il y en a qui ont eu des enfants, il y en a qui n'ont pas eu d'enfants. Il y en a qui ont fait beaucoup plus de musique, qui ont consacré beaucoup de temps à ça. D'autres moins. Il y en a qui ont plus d'argent que d'autres. Et ça fait une espèce de conglomérat un peu disparate et qui évolue perpétuellement en fonction des choix de vie, en fait. Mais il reste que c'est quand même une économie assez précaire et qu'il n'y a pas vraiment de marge. Il n'y a pas ce qu'on appelle un chiffre d'affaires. Il y a très, très peu de marge. Tout est un petit peu mélangé, des concerts, le fric que tu arrives à avoir les concerts, ce que tu dépenses en tournée, ce que tu as en retour des disques, mais tout ça, c'est très très précaire et c'est au coup par coup.
Ce dont on peut parler de l'économie du label, par contre. C'est-à-dire qu'en fait, le label, ça a toujours été un petit label et c'est toujours le cas actuellement, ce qui est une qualité et aussi un défaut. Mais pour l'instant, enfin, il me semble que c'est pas mal. Le truc, c'est que les sous, en tout cas, des disques du label vont au label et servent à rebalancer dans d'autres projets. Il y a des disques qui ne marchent pas du tout, ça veut rien dire, mais parce que le groupe arrête souvent, alors qu'on est juste de sortir le disque, donc on se retrouve avec 500 vinyles, donc on les offre, ou des trucs comme ça. Et après, aussi, ce qu'on a trouvé comme économie par rapport au label, qui est vachement intéressant, c'est que, comme on n'a pas de distributeur, et qu'il y a plein de petits labels qui sont dans notre cas, et qu'on se connaît bien, c'est comme disait Henrik, on fait des collaborations depuis 8 ans, 7 ans sur une référence, un disque, un groupe. On est 5 labels en fait à participer. Ça diminue les frais de fabrication. Ça permet aussi d'avoir une distribution informelle parce que chaque label est dans une zone géographique différente, tu vois. Et chacun va vendre le disque de son côté, plus les concerts. Donc ça c'est intéressant, c'est super. Et ça se fait beaucoup, tout le monde fait ça maintenant. Voilà.
Vous avez commencé à en parler, que vos vies avaient évolué, mais quand même, moi, ça m'intéresse toujours les groupes, les projets ou les personnes qui ont pu passer les années, qui gardent une motivation. C'est quoi vos motivations, vos remèdes et tout ça pour pouvoir perdurer avec la motivation, avec l'économie précaire que tu disais
Moi, enfin, personnellement, je pense que c'est notre cas. La motivation, on est des vieux amis tous, et donc ça nous permet de nous retrouver sur un projet qui est en plus extrêmement excitant. Donc, en général, tu lâches pas le truc comme ça, quoi. S'il y a un problème, tu essaies de réfléchir, de trouver une solution, quoi. Tu l'abandonnes pas en claquant des doigts. Parce que tu te retrouves tellement dans ce projet-là que c'est ça qui motive pour le continuer, en fait. Hein. C'est comme si tu étais dans une espèce j'ai pas d'exemple, en fait. Mais là, en plus, ce matin, j'y arrive pas du tout à faire des... Faudrait que je m'allonge et que je sois derrière moi. Là, j'y arriverai. Non, mais voilà, le projet en soi, enfin... nous fait assez, vraiment fortement plaisir, quoi. Et on a une chance incroyable pour faire ça, quoi.
Mais en plus, c'est, bon, je pense que c'est déjà fortement influencé par les quelques trucs qu'on a écoutés en étant jeune, des groupes qui ont été déterminants pour nous. Parce qu'en fait, dans tous les parcours dans le milieu musical que tout un chacun en a, on peut être à des niveaux d'aiguillage, puis on peut prendre une direction plutôt qu'une autre, et c'est vraiment en fonction des gens qu'on côtoie et surtout ce qu'on écoute qu'on peut emprunter des directions particulières. Donc nous, on a pu jouer, rencontrer ou jouer ou écouter des groupes qui nous ont vraiment super influencés. Moi, je pense par exemple au X dans la fin des années 90. C'est leur musique, mais aussi leur approche à la musique, la manière dont ils la font. Et ça, ça marque vraiment durablement à des périodes de vie où on est comme des éponges et on est très, demandeur de ce genre d'informations, tu vois, qui nous nourrissent. Il y a ça, il y a les films qu'on regarde, les bouquins qu'on lit, qui sont hyper excitants, ou par exemple, ça peut être, j'en sais rien, si je cite En Vrac, ou ça peut être quand le film de hier, quand on a vu le couple dans sa cuisine qui avait plus de 80 piges, et qui était hyper émouvant avec son accordéon et sa voix, là, ça te maintient dans une espèce de tension et de curiosité qui fait que tu vas toujours vers l'avant, et il n'y a pas de raison que ça soit une question de cycle de vie ou d'âge, qu'entre 20 et 30 ans, tu as la grosse pêche, tu donnes tout dans le rock avec la fureur de vivre, puis après, soit tu es complètement décadent avec ta santé qui est en déperdition totale, et que ou alors tu switches et tu fondes une famille et tu trouves un boulot salarié pour du long terme pour investir dans l'immobilier. Non, t'as compris qu'en fait, un des enjeux de la vie, c'est de sortir de ce cadre-là, et c'est comme un challenge, et d'aller de l'avant, et que servir, en quelque sorte, ça peut être aussi des modèles, mais pour soi-même, c'est hyper exaltant. Et voilà, garder cette exaltation jusque le plus loin possible, et la musique en fait partie, c'est un prisme parmi tant d'autres. Oui, il y a des gens, c'est la montagne, faire des escalades de folie, des gens, faire de la voile, faire des tours de monde, bah, nous, c'est faire de la musique avec un minimum de passion et de lyrisme, quoi. Jusque le plus loin possible, je pense, n'est-ce pas ?
J'ai presque terminé, j'ai encore une question par rapport à un de vos titres de votre dernier album, Pleine Lune, qui est sorti en 2017. Il y a une chanson qui s'appelle Le Grand Soir en plein soleil. Je me demandais si c'était un hymne à la révolution sur le sable jaune, qu'on est dans une mouvance jaune.
Après, je vais lui passer le micro. Mais le nom du morceau s'appelait pas comme ça à la base, il s'appelait Soleil. Et
C'était par rapport au nom du chien d'Isaac.
Par rapport au morceau, des fois, pour les titres, c'est un peu compliqué parce qu'on se raconte tous un peu une histoire dans le morceau qui n'a rien à voir les uns avec les autres, quoi. Et c'est vrai que, voilà, Henrik donc a trouvé ce titre, maintenant à toi.
Ouais, mais je m'en souviens déjà plus, c'est ça le problème. Parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu pour déterminer un titre, des plus pragmatiques jusqu'aux plus théoriques, on va dire, quoi. Donc il faut une espèce de compromission. Mais ça, à l'époque, pour le grand soir... attends, c'est quoi déjà, même? Je sais plus. le grand soir en plein soleil, c'était ça. En fait, en l'occurrence, j'avais lu un bouquin. Alors, comment il s'appelle, le gars, là? C'était un philosophe. Bon, bref, bon, peu importe, c'est pas grave. En tout cas, il parlait sur toutes les vertus que tu peux trouver dans le monde de la nuit, quoi, en fait. Et pour lui, il avait une lecture du monde d'interlope, du monde de la nuit, qui était évidemment comme si c'était une image inversée de ce qui s'appelle, de ce qui se passe en fait dans la journée. Donc pour lui, la journée, c'était quelque chose d'assez conventionnel, avec des codes en place de lumière, de journée, de visibilité, de visibilité aussi d'un point de vue comportemental, de langage corporel, etc., etc. Et tout basculait dans le monde de la nuit, non pas le monde de la nuit du début de la nuit, de 23h à minuit, mais vraiment dans le monde de la nuit. Alors lui, c'est plutôt les milieux interlopes parisiens ou des grands centres urbains européens, mais en tout cas, bref, tout basculait à partir d'une heure, deux heures du matin. Et pour lui, il y avait comme une dimension très politique et révolutionnaire dans ce monde de la nuit. Il y avait en jeu des concepts de type révolutionnaire. Et moi, ça me fait penser au grand soir, là, le grand soir où tout bascule, où on change complètement de structure de société, où tout bascule. Mais il y a une espèce de sorte de contradiction avec cette notion du grand soir. Pourquoi ça se passerait forcément le soir? Pourquoi la nuit? En fait, on revient à cette histoire de la nuit où on change un peu de paradigme. Mais le grand soir, et puis en fait, en plein soleil, parce que finalement, en plein soleil, c'est parce que il faut vraiment que ça se passe aussi en journée, à la lumière de tout le monde, en plein soleil, j'en sais rien. Enfin, un truc en vrac, comme ça. Les gilets jaunes, c'est en plein soleil, hein, habituellement. La nuit, ils font plus rien, donc...
Merci, je voulais faire ce lien-là. Je crois que j'ai terminé. Si vous avez un tips, une traverse, un free à partager, ou peut-être une possibilité d'écouter Happy With Chocolat Billy et autres projets.
De quoi ? J'ai pas compris la question.
J'ai dit que c'était un espace libre.
Alors, c'est possible de l'écouter sur Internet. Il y a des sites de très bonne qualité et gratuits sur lesquels on peut écouter les disques.
Et après... j'ai failli roter là, tiens.
Et après, je sais plus. Et après, il est possible d'acheter le disque aussi sur le label. Voilà.
Mais surtout, il faut aller au concert, c'est ça qui est génial, les concerts.
Je crois qu'il y a Simone de Beauvoir qui vient de parler.
Ouais, et on peut retrouver vos concerts aussi sur le site d'Happy Wiz.
Tout à fait. Carrément. Tout est archivé depuis 2000.
Et vous allez nous dire le nom du site ou c'est secret?
Happywiz.com, c'est hyper simple.
Le potager surtout, c'est le
potager nature, sinon voilà. Sur le site, avec tous les aussi les disques du catalogue qui sont donc plein d'autres groupes.
Voilà. La liste des concerts, la liste des tournées, etc. Voilà. Etc.
Toutes les infos.
Voilà.
Alors au niveau Facebook, on est un peu largué, mais on en a un aussi. C'est notre webmaster Georges Vega qui s'occupe du Facebook Happywiz et Armel Marcadet pour Chocolat Billy.
Ok, merci. Petite chanson pour finir. Ah non, vous êtes avec les instruments et tout, non?
Alors attends, c'est quoi déjà? Un lundi matin sur ma... Non.
Armel, quoi? Merde, on n'a pas abordé une question de genre au sein du groupe.
Bon, merci, on était avec Yann Herman, Georges et Armel de Happy Wiz. C'était l'émission Comme un Happy Wiz, émission de Radio Zinzine de décembre 2018, avec comme metteur en scène Armel Marcadet, Yann Saboya, Enrique Vega. Nous saluons aussi les deux autres musiciens du groupe d'Happy Wiz, Jorge Vega et Mehdi Benitez. Vous avez été accompagné en musique avec les chansons Chasse à l'homme et Moi aussi, mais alors avec un peu de moutarde, et en finale Le grand soir en plein soleil. Chansons que vous pouvez retrouver sur les sites www.happywiz.com et lespotagernature.org sous catalogue. Nous remercions les membres d'Happy Wiz. Et nous vous invitons à réécouter l'émission sur le site www.radiozinzine.org sous émission et sous communeoreille.blogspot.fr.